10h midi sur Radio Lac.
Mieux vivre avec Maud Carlus.
Bonjour à tous et bienvenue dans Mieux vivre. Si je vous dis les Suisses aiment le chocolat et sont toujours à l'heure. Ils travaillent tous dans des banques et adorent la montagne. Ces clichés véhiculés dans le monde entier sur les Suisses ont-ils une part de réalité ? À l'occasion de la parution de Homo Helveticus aux éditions Tilschap de Berne, ouvrage du photographe suisse Didier Rueff, nous nous intéressons ce matin à l'identité suisse. Existe-t-il une culture suisse ? Comment le pays s'y retrouve-t-il dans toutes ses langues et toutes ses spécificités ? C'est quoi être suisse en 2018 ? Pour répondre à ces questions ce matin, je reçois Didier Rueff. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, je vous présente assez rapidement, mais évidemment, vous nous en direz davantage. Vous êtes photographe depuis plus de 30 ans. Vous avez sillonné le monde entier tout en revenant régulièrement sur le sol helvétique. Un œil toujours dans le viseur. Votre ouvrage Homo Helveticus paraît aujourd'hui. Il comporte 168 images, vous m'avez dit, vous avez raconté ce matin, qui racontent les Suisses et la Suisse. Merci d'être avec nous ce matin. Et puis également, à vos côtés, Marco Schneider. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien à l'Université de Genève, historien moderniste, spécialiste du XVIIe et XVIIIe siècle.
Oui, tout à fait.
C'est bien ça. Ouais. Soyons précis. Merci messieurs, à tous les deux d'être avec nous ce matin. Alors je voudrais tout de suite vous demander, monsieur Rueff, dans votre texte de présentation, dans le livre du livre Homo Helveticus, vous dites, je vous cite, « J'ai décidé de consacrer mes moments de liberté à la découverte de l'idiosyncrasie, c'est-à-dire le caractère propre suisse, la suissitude, dites-vous, en quelque sorte, dans une quête introspective de mon pays et de mes racines. » Maintenant que vous avez achevé le livre, êtes-vous d'accord pour dire qu'il existe une suissitude ou plusieurs suissitudes ?
Bon, je pense qu'il en existe autant de suissitudes que de cantons. Ce que j'ai constaté sur ces 30 années, c'est que finalement de...
Mettez bien le micro devant vous comme
Ce pays est tout petit, mais il suffit de quelques kilomètres pour que tout change. Mentalité, habitude, mode de vie, tradition, même si des grandes tendances se retrouvent un peu partout. Donc oui, pourquoi j'ai plongé dans cette quête d'identité ? Parce que finalement, fondamentalement, je ne savais pas autrefois que j'étais suisse. Ayant grandi à Genève avec un grand-père français, axé essentiellement sur la France, j'ai découvert la Suisse à mon retour à près de 25 ans des États-Unis.
Incroyable. Donc vous étiez genevois de fait et vous ne saviez pas que vous étiez suisse.
Disons que je réalisais pas à quel point j'avais un passeport helvétique. Je voyageais, j'ai beaucoup voyagé aux États-Unis, j'ai vécu aux États-Unis, mais à mon retour en Suisse en 85. Alors que j'étais photographe, j'ai commencé à découvrir ce pays. Et finalement, ça a été une plongée assez fantastique.
Un peu une révélation quelque part.
C'est une révélation, oui, c'est le cas de dire, puisqu'en fait, c'est en plus de la pellicule en noir et blanc, donc il fallait vraiment la révéler, quoi.
Oui, c'est vrai, on va y revenir hein, sur ce choix artistique hein, que vous avez fait, qui a évidemment du sens, le noir et blanc. On peut dire que ça a été un peu une révélation. Maintenant, vous avez conscience que vous êtes suisse. C'est un peu un hommage, ce livre.
C'est un hommage à la fois au fait que je suis né ici dans ce pays par le pur des hasards. Finalement, on est un peu à un endroit qu'on choisit pas. Ce que je lui dois beaucoup finalement à la Suisse parce que c'est à Zurich que j'ai pu faire mes premiers reportages, que j'ai pu vraiment débuter, travailler dans la presse. C'est avec Genève où j'ai beaucoup travaillé avec les différentes ONG. Aujourd'hui, j'habite au Tessin, à Lugano. Donc, je fais un peu le tour des trois côtés. Donc je lui dois beaucoup à cette Suisse. Et il y a des choses que j'apprécie énormément, d'autres sur lesquelles j'ai plus de doutes.
C'est bien normal, évidemment, on va y revenir. Cette quête que vous avez démarrée, il y a combien de temps en fait ?
C'est très simple, c'était en 1987. Je rentrais des États-Unis où j'avais habité pendant près de 2 ans, où j'ai fait une formation en photographie, en photoreportage, et à mon retour ici, justement dans ces moments de liberté, c'est-à-dire dans les moments où finalement j'étais sans travail, je me suis dit, bon, on va occuper ce temps à faire ce que je faisais dans les rues de New York, c'est-à-dire à faire de la photographie de rue, aller un peu à la recherche de sujets, à la rencontre de gens, et puis c'est comme ça que ça a démarré. Donc depuis 30 ans, je collecte ces images, je les mélange, les remélange, j'en fais des puzzles, je les mets dans un certain ordre pour finalement arriver aujourd'hui à ce livre, Homo Helveticus, qui est aussi un clin d'œil à cet an de latin que j'ai fait. Donc j'ai, voilà. J'ai tout oublié, mais j'ai gardé
oui, en général, on oublie assez vite, effectivement. ou alors, cas exceptionnel. Est-ce que vous aviez conscience, il y a 30 ans, quand vous avez démarré ce travail photographique, que ça allait donner ce livre, que ça allait être un si gros travail, finalement? Ou c'était au début juste un peu comme ça pour...
Non, mais c'est pas le premier livre que je fais, mais je n'ai jamais conscience au début. Je veux dire, ça
parce que 30 ans, c'est long quand même. Comme 30 ans, c'est un gros travail de collecte.
C'est beaucoup trop long. C'est beaucoup trop long, dire la vérité. Mais j'ai un petit peu ce problème de garder, de travailler, retravailler la matière jusqu'à un moment donné. Ben voilà, là, j'ai senti qu'il était temps de boucler la boucle d'une certaine manière. Mais non, au départ, ça part d'une bonne intention, d'une envie, d'une intention, et petit à petit, le sujet grandit et il se façonne, d'autres angles se naissent et c'est voilà.
Alors, est-ce que l'identité suisse a changé en 30 ans? Est-ce que vos photos, elles changent, elles évoluent?
Eh ben alors tout change. Ce qui est assez intéressant, c'est que dans ce livre, il y a des images qui aujourd'hui, d'abord, n'existe plus. Il y a un ouvrier dans l'usine Victorinox, dans l'usine Wenger. Voilà, bon lapsus puisque Wenger a été racheté par Victorinox. Cet ouvrier travaille, fume. Wenger n'existe plus. L'ouvrier certainement est à la retraite et la cigarette est bannie.
Et voilà, et on n'a plus le droit de fumer, ça c'est sûr.
On n'a plus le droit de fumer. Et les habits, les voitures,
les postures.
Les postures, oui, et puis la société a changé, elle est beaucoup plus multiculturelle aujourd'hui. Et ça, c'est assez intéressant.
Effectivement, oui. Alors, évidemment, votre langage, hein, vous, avant tout, c'est la photo. Donc, je ne vais pas vous demander pourquoi vous avez fait appel à la photo. Je vais en revanche vous demander en quoi, à votre avis, la photo en noir et blanc a servi votre propos, finalement.
Bien écoutez, moi je suis un grand passionné du noir et blanc pour une chose assez simple et essentielle. Ce qui m'intéresse moi, c'est l'être humain. Donc le noir et blanc me permet d'aller à l'essence, c'est-à-dire d'éviter tous les biais de la couleur, tous les côtés faciles et attirants. Et en allant à l'essentiel, le noir et blanc me permet de concentrer dans une image le tout. Parce que mes images en général sont souvent complexes. Elles ont plus d'un degré de lecture et j'aime ajouter à ceci une espèce de langue, parce que la photographie c'est une langue sans mots, donc ça permet aux gens de finalement de regarder ces images, de se les approprier et puis d'en faire un petit peu aussi une part de leur vécu, et c'est là que ça devient intéressant.
Alors, merci beaucoup, monsieur Rueff. Marco Schneider, je vais vous demander. Alors, je précise que le livre est sorti donc aujourd'hui. Donc, c'est vrai qu'on a eu assez peu de temps pour se préparer, pour l'avoir entre les mains. Qu'est-ce que vous pensez en tant qu'historien d'un travail comme ça? Qu'est-ce que ça peut vous apporter à vous, historien, d'un travail photographique qui court comme ça, sur 30 années?
Ben justement, vous avez bien dit qu'on n'a pas, malheureusement, pas eu beaucoup de temps pour le feuilleter. Certainement très intéressant à l'aspect la dimension temporelle, donc de savoir qu'un livre a été produit en 30 ans. Pour un historien, c'est extrêmement intéressant parce qu'on travaille constamment sur la question temporelle. Certainement, il y a des changements, mais il y a aussi des questions qui, disons, des thèmes ou des aspects qui restent ou qui reviennent. Parce que ce qui est intéressant aussi dans les travaux d'histoire, c'est que les choses changent, mais il y a également par exemple, des discours identitaires que j'ai l'impression qu'ils reviennent beaucoup plus maintenant, peut-être parce qu'on est en temps de crise ou d'incertitude par rapport à l'avenir ou par rapport au phénomène de la globalisation et mondialisation. J'ai l'impression qu'il y a certains clichés ou discours qui reviennent. Et donc, pour un historien, c'est certainement très intéressant de... En général, certainement, la photographie m'intéresse et nous intéresse beaucoup. Mais en plus, cette question temporelle est un élément...
Important,
absolument.
Et puis, si je ne me trompe pas, c'est ce qu'on appelle une source primaire, finalement, ce genre de travail qui a été compilé et qui devient pour vous une source primaire.
Oui. Alors là, c'est très délicat, parce qu'effectivement, la photographie, c'est une chose qu'on explique souvent, que j'explique souvent aux étudiants aussi. Parce que la tentation, c'est de considérer la photographie comme une source primaire un peu innocente.
Évidemment, il y a un
et
regard.
Derrière, il y a du construit,
bien
comme
sûr.
Didier Rueff l'a dit tout à l'heure, c'est complexe, il y a plusieurs niveaux de lecture qu'on peut faire. C'est une source, mais de quoi ? De, par rapport au regard du photographe, par rapport à la réalité photographiée, c'est beaucoup de choses. C'est très fascinant, effectivement, d'analyser une photographie pour un historien, mais il faut faire très attention.
Évidemment, il faut faire attention parce que derrière l'appareil photo, évidemment, il y a l'œil du photographe. Ça vous plaît, Didier Rueff, de savoir que peut-être votre livre, vos images pourraient être étudiées par des historiens comme ça et pourraient servir d'exploration, peut-être ?
Mais moi, ça me plaît et je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est un regard subjectif sur une réalité objective. Donc, à partir de là, toutes les interprétations sont possibles. Il y a des faits, et puis moi, j'utilise ces faits, ou je choisis des points de vue. Maintenant, je dis souvent que mon travail, c'est un petit peu d'être comme une petite bougie, en fait. J'éclaire des choses.
Et vous l'approchez, vous l'éloignez.
Je l'approche, et ça permet aux gens, et c'est ce que j'essaye de faire à travers les différents livres, de leur dire, voilà le monde dans lequel on vit. Regardez-le, pensez-y, est-ce que ceci va vous pousser à changer, être autrement, etc. Oui, j'espère. Maintenant, si ce travail vient à être étudié, c'est très bien, c'est une des meilleures des choses. Qu'on en parle, c'est la meilleure des choses.
Merci beaucoup à tous les deux. Je vous propose tout de suite de faire une petite pause et puis on se retrouve dans quelques instants pour continuer à parler de l'identité suisse. Si vous avez, vous auditeurs, des choses à dire sur ce débat, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message WhatsApp sur le WhatsApp de Radio Lac 079 918 3000. On se retrouve dans quelques instants, il est 10h16.
10h midi sur Radio Lac, mieux vivre. 10h midi sur Radio Lac, mieux vivre avec Maud Carlus.
Nous sommes de retour ce matin dans Mieux Vivre pour parler de l'identité suisse à l'occasion de la parution aujourd'hui même de ce livre photo intitulé Homo Helveticus qui a été réalisé intégralement par Didier Rueff qui est un photographe depuis plus de 30 ans qui est à nos côtés ce matin et qui nous raconte un petit peu comment il a élaboré ce livre, ce magnifique album qui est assez imposant, il faut le dire, hein, c'est un livre d'images, il est assez lourd, il fait 2,5 kg, je crois que vous m'avez dit.
Oui, c'est 2,5 kg, c'est un beau bébé.
2,5 kg de poids suisse, du coup. Et puis, nous sommes également en compagnie de Marco Schneider, qui est historien, qui nous aide un petit peu à décrypter cette histoire un peu suisse. On va y venir un petit peu plus tard. Je voudrais vous redemander encore, Didier Rueff, on en parlait un petit peu là, hors antenne, comment vous vous y êtes pris finalement ? Parce que c'est pas évident de se dire, bon allez, hop, je vais essayer de définir l'identité suisse. Comment on s'y prend finalement ? Est-ce qu'on se dit, bon voilà, je fais une liste de tous les lieux où je veux aller, peut-être de tous les grands événements qui peuvent exister en Suisse, qui parlent aux gens ? Comment on fait ?
On fait tout et encore un peu plus. C'est-à-dire que, un peu comme une éponge, souvent, en reportage, je me laisse un peu imprégner d'abord des rencontres et ce que les gens me disent. Alors, bien sûr, au début, il y a d'abord eu pour moi la découverte de la Suisse. Parce que, comme je le disais avant hors antenne, j'ai grandi à Genève. À 25 ans, je vais vivre à Zurich. Je me retrouve, là où j'avais étudié pendant 7 ans l'allemand, je me retrouve dans un canton où on parle suisse-allemand, premier choc. Puis ensuite, je travaille avec des rédactions, des magazines zurichois qui m'envoie à l'étranger, mais également en Suisse. L'un des premiers reportages, ça a été paradoxalement au Jura, parce qu'ils avaient envoyé des journalistes germanophones, ce qui n'était pas une très bonne idée. Donc je suis retourné un peu refaire le travail, et puis au Grison, et puis petit à petit je découvre qu'il y a la fête du yodel, la fête du tir, la fête des costumes. Dieu sait, donc ce sont tous des lieux qui permettent des rassemblements de gens. Et dans les rassemblements, où le sexe et l'oeil, par exemple une des photos faites avec les chameaux qui sont accrochés au parcomet, c'est juste avant la parade du Excellent. Donc ces événements-là, il faut juste être là, attendre, être un peu avant, un peu après, c'est là que ça se passe. Et petit à petit, on construit ce sujet. Alors le Grütli qui est présent à différents moments, c'est un lieu mythique. J'ai dû y aller parce que c'est juste tellement surprenant.
C'est incontournable, comme vous l'avez dit. Oui. Mais... Donc vous n'avez pas été partout. Vous avez dit vous avez été partout, mais il n'y a pas une photo.
Alors je pense que j'ai été dans tous les cantons, ouais. Parce que j'ai fini, je sais, sur Schaffhouse, que j'avais oublié, mais je suis pas sûr, sincèrement, qu'il y a une photo par canton. Ça, je peux pas le confirmer. Par contre, il y a les grandes régions qui sont, mettons, la Suisse romande, le grand Zurich qui est énorme, le Tessin qui est très couvert. Puis après, il y a les petits sauts de puce un peu au hasard, en fonction de d'envie.
En fonction de vos envies et puis évidemment.
Et puis des rances, hein, surtout, parce que j'ai pris des routes sans savoir exactement où j'allais.
Vous avez fait photographe finalement.
Oui, j'ai fait photographe, oui. Ou pêcheur, un peu.
En fonction de ce qui pouvait mordre, du coup.
Mais des rencontres, il y a certaines images que j'ai faites juste en laissant le fil aller.
C'est-à-dire sur le vif.
Je prenais des petites routes et puis allons où on va. Puis tout d'un coup, il arrive des choses qu'on ne peut pas imaginer.
Alors, je voudrais y revenir justement sur ces routes, sur ce territoire, en fait, finalement, qui compose la Suisse. Alors, je me tourne vers vous. C'est peut-être davantage de la géographie que de l'histoire, monsieur Schneider. Mais est-ce qu'on peut, rappeler rapidement un peu la formation du territoire suisse? Parce qu'évidemment, les spécificités d'un peuple, je suppose quand même qu'on va aussi les chercher dans son histoire et dans l'histoire de sa formation.
Les historiens doivent faire beaucoup de nuances.
C'est bien sûr. Toujours. Alors, je vais aussi schématiquement que possible. C'est très difficile de résumer.
Bon, c'est ces communautés de la Suisse centrale qui faisaient partie, comme la plupart de l'espace suisse, l'ensemble de l'espace suisse, à vrai dire, faisaient partie du Saint-Empire germanique. Ce noyau de la Suisse centrale, c'était des communautés qui ont, au fur et à mesure, obtenu des privilèges, une certaine autonomie. Au sein du Saint-Empire, après il y a des alliances qui sont créées avec certaines villes comme Lucerne, Zurich, Berne. Et autour de ce noyau, après il y a eu des conquêtes qui ont été faites. Berne qui a conquis le pays de Vaud, par exemple. Les Uranais qui ont conquis la Léventine dans le Tessin. Et c'est un peu comme ça que cet ensemble étatique s'est formé, mais toujours un peu au sein de cet Saint-Empire germanique. On n'a pas eu. En 1291, on n'a pas fondé la Confédération, certainement. Mais c'est au fur et à mesure, c'est très progressif.
Et cela a pris combien de temps, alors
ce... Ça a pris des siècles. Il y a certaines dates que les historiens soulignent. Les guerres au XVe siècle contre le duc de Bourgogne, contre les Habsbourg avant. Donc il y a une progressive autonomie qui se met en place. On souligne souvent la date de 1648, aussi le traité de Westphalie après la guerre de 30 ans, où apparemment... Si avant c'était une autonomie, une certaine indépendance de facto, avec le traité de Westphalie, c'est plutôt de jure. Donc
c'est
les Suisses sont représentés
presque.
Dans ce congrès diplomatique et ils ont le rapport avec l'Empire devient de plus en plus lâche.
Ouais.
Après, c'est vrai aussi que justement, il y a aussi des territoires qui ont été perdus par la suite, comme la Valteline qui est passée au début du 19e siècle au royaume de Lombardie, disons, sous l'Autriche, ensuite devenue italienne. Mais voilà, c'est une longue histoire et c'est une formation qui s'est faite de façon progressive et également, je pense, la question identitaire.
Oui, évidemment. Évidemment.
C'est fait au fil des siècles.
Alors, c'est très difficile de parler de la Suisse sans évidemment mentionner ces langues, cette diversité linguistique qui influe forcément sur la culture.
Alors, la question linguistique est intéressante. Effectivement, il faut quand même souligner le fait que le plurilinguisme, comme on le connaît aujourd'hui, avec quatre langues officielles, c'est quelque chose de quand même nouveau. En tout cas, à partir du 19e siècle, parce qu'avant la Confédération suisse, en tout cas dans les 13 cantons qui formaient la Confédération suisse avant le 19e siècle, la langue officielle, c'était l'allemand. Même pour Fribourg, qui était un canton à majorité francophone, la langue de l'administration, les élites avaient choisi quand même d'utiliser l'allemand, parce que tous les autres cantons étaient germanophones. Après, le français était parlé dans certains pays, certains états qui étaient alliés des cantons, comme Genève, comme Neuchâtel, ou bien l'italien était parlé dans certains pays sujets, dans des territoires qui étaient soumis à des cantons. Donc c'est vrai qu'il y avait déjà plusieurs langues qui étaient parlées, mais l'allemand était quand même la langue
principale.
Quand les représentants des cantons et des pays se retrouvaient, la langue c'était quand même l'allemand.
Oui. Ah,
donc c'est une histoire plutôt récente.
Tout à fait, oui. Mais alors comment elles peuvent, même si c'est récent, ça fait quand même depuis le 19e siècle.
Récent pour les historiens.
Voilà ce que j'allais dire. À votre avis, à quel point ça peut influencer sur ces identités qu'on essaie de définir aujourd'hui ?
Alors la langue et donc la culture, la langue influence beaucoup, certainement. Je pense qu'il faut quand même être conscient que ça peut changer selon les époques. C'est clair que pendant la Première Guerre mondiale, il y a eu pas mal d'études très intéressantes qui ont été publiées récemment, vu qu'il y avait ces anniversaires. À ce moment-là, la Suisse était vraiment très divisée. Donc la Suisse allemande regardait vers les empires. Et la Suisse romande était vraiment très tournée vers la France. Très différent, la situation est très différente pendant la Deuxième Guerre mondiale, effectivement. Avec la présence des nazis, c'est clair que les Suisses allemands étaient moins...
Anglais,
ils ont voulu plus marquer la différence. Donc c'est peut-être aussi pour cette raison que le suisse allemand on a commencé peut-être à l'utiliser aussi dans d'autres contextes pour se différencier. Certainement, ça influence beaucoup. Il y a des traits culturels qui restent en Suisse romande, au Tessin, en Suisse allemande, qui restent, qui font référence aux grands pays proches qui ont la même langue, la même culture. Mais en même temps, il y a d'autres aspects identitaires qui émergent, qui n'ont rien à voir avec la langue, dans le cas de la Suisse, je pense.
Oui. Didier Rueff, est-ce que vous, dans vos photos, ça se ressent, la langue, la différence, à votre avis ?
C'est difficile à dire. Alors, si ça se ressent, ça se ressent quand on fait les photos.
Oui.
Parce qu'il y a des... c'est des clichés, ce que je vais dire, c'est assez banal, mais c'est vrai que la Romandie et le Tessin ont ce côté très latin. Donc, une espèce de...
Donnez-nous des exemples, par exemple.
C'est un peu plus chaotique. Voilà, les choses sont c'est plus flexible. On peut passer à gauche, on peut passer à droite. En Suisse alémanique, ce sera plus normé, ce sera plus dirigé. Et puis tout ce que je vous dis maintenant, ça peut se renverser parce que dans l'arc alpin, tout d'un coup, tout s'ouvre. Les gens sont excessivement accueillants, que ça soit à Schwyz, à Obwald, etc., au fin fond des vallées. Par contre, là, il y a des vrais problèmes de communication. Parce que c'est plus de l'allemand, c'est plus peut-être du suisse allemand, mais ça sera de l'uranais, ça sera du donc voilà, c'est là que ça complique un petit peu les rapports. Mais finalement, la langue, bien sûr, influe sur les comportements et elle influe un peu sur les traditions. Donc elle retrouve, ce qui est assez intéressant, parce que là, depuis un certain temps, je m'intéresse à la passion des Suisses pour les armes à feu, par exemple. Il y a une grande rencontre au Grütli, et là, les gens de toute la Suisse se retrouvent. Donc ils se retrouvent tous autour de cette tradition, l'arme, qui est un élément important de la Suisse. Ils ont cette passion du tir sportif, cet exercice qui est compliqué. Mais surtout, ensuite, après, il y a un grand échange culinaire. C'est que chacun amène un petit peu sa spécialité et tous font le tour de différentes tables. Autant dire que dans le culinaire, il y a aussi l'aspect alcoolique.
Bien sûr. Là,
il y a des vins d'un peu partout et des liqueurs assez fortes. Donc, c'est assez et même très joyeux. Donc, au bout d'un moment, qu'est-ce qui les rapproche tous ? Je pense que c'est ce fameux compromis helvétique, là où on est capable de se dire, je contribue parce qu'en retour je reçois quelque chose. Et c'est important, cette espèce de don et contre-don. Et là, je pense que la Suisse allemande, qui est quand même 80% du pouvoir, si on veut faire une carrière en politique ou ailleurs, il faut parler suisse allemand. On n'échappe pas à ça. Donc la langue est fondamentale.
La langue est fondamentale, évidemment. Merci beaucoup à tous les deux. Cette discussion est vraiment très intéressante. Mais on va faire une petite pause quand même musicale pour écouter encore une autre langue, l'anglais cette fois. Et puis on se retrouve dans quelques minutes pour continuer à évoquer l'identité suisse ce matin. Restez bien à l'écoute de Mieux Vivre. Il est 10h34.
10h midi sur Radio Lac.
Mieux Vivre avec Maud Carlus.
Merci de nous suivre à 10h38 sur Radio Lac. Ce matin, nous sommes en compagnie de Didier Rueff. Vous le connaissez peut-être, c'est un photographe depuis plus de 30 ans et il publie aujourd'hui même Homo Helveticus. C'est un formidable livre photo, un album assez imposant d'ailleurs, dans lequel vous pouvez trouver 168 images de la Suisse et des Suisses. Et c'est évidemment l'occasion pour nous de nous interroger ce matin sur les spécificités suisses, sur l'identité suisse, si elle existe d'ailleurs, parce qu'on a vu qu'elle était tellement plurielle, notamment par rapport à ses langues, à sa tradition linguistique. Et peut-être je voudrais vous demander ce matin, maintenant Didier Rueff, est-ce que comment vous avez traité les clichés qui peuvent exister autour de la Suisse et autour des Suisses? Est-ce que vous vous êtes dit, bon, bref, voilà, je vais m'attaquer à ces clichés. Quand je dis clichés, ce sont ce que j'ai dit en préambule, du genre le chocolat, l'argent, l'horlogerie. Est-ce que vous les avez traités? Comment vous vous y êtes attaqué?
Alors j'ai complètement plongé dans les clichés parce qu'ils sont juste fantastiques, mais je les ai tous de certaines manières transcendés. Donc ce qui m'a amusé dans les clichés, ça soit on peut partir avec le drapeau suisse, hein, qui est un des grands clichés, parce que fondamentalement quand je suis revenu des États-Unis. Aux États-Unis, où qu'on soit, il y a des drapeaux.
Il y a des drapeaux partout. Et ça choque personne.
Et même
de ne pas l'avoir, c'est bizarre.
En Suisse, il y a des drapeaux partout. Ouais. Si vous commencez à ouvrir les yeux, il y en a partout. Où on est montagne, pas des montagnes, il y en a partout. Et pas juste au 1er août, il y en a vraiment partout. Et ils sont utilisés dans toute cérémonie, dans toute célébration. Donc, bien sûr, il fallait associer à ce drapeau des images, des rencontres. Et avant, vous disiez, c'est un travail sur la Suisse et les Suisses. C'est plutôt un travail sur les Suisses et la Suisse, d'une certaine manière. Et donc voilà, là, ensuite les autres clichés, le chocolat, j'ai fait une image des petits lapins au chocolat, oui, dans les rues de Zurich. Là, c'était
les gros lapins au chocolat entouré, voilà, de papier or. Hein,
justement, l'horlogerie, je ne suis pas sûr que sur l'horlogerie il y ait quelque chose. Il y avait une photo, mais finalement, je ne l'ai pas retenue. Mais j'ai le corps des Alpes, par exemple, qui apparaît souvent. Et dans la préface qui est faite par Thomas Meissen, il en parle d'ailleurs justement de ce fameux corps des Alpes, qui est une espèce de référence absolue.
Un symbole, en fait.
Un symbole, mais y a très peu de gens qui savent utiliser un corps des Alpes. Il s'avère qu'à la fête de la musique, il y a bien, bien longtemps, ici à Genève, sur les toits de la terrasse de l'hôpital, il y a un petit garçon avec de superbes lunettes de soleil qui a pris un corps des Alpes et qui l'a mis à hauteur de sa bouche comme pour en jouer. Il n'en jouait pas. Donc l'image, elle est là. Le cliché, il est là. Il suffit d'être... Mais c'est un petit peu la même chose en photographie. Il suffit d'être là au bon moment et de voir. Parce que finalement, la photographie, c'est ça. C'est voir, sentir, comprendre. Et sur le moment, c'est un acte assez actif, c'est un acte, c'est un réflexe.
C'est un réflexe, tout à fait. Et donc, les Suisses aiment le chocolat, tout ça pour dire.
Alors, les Suisses aiment, mais il n'y a pas que les Suisses, hein. Il y a beaucoup de gens, évidemment, qui aiment le chocolat, mais bien sûr, oui.
Aiment leur chocolat,
Mais sur le chocolat, je dois dire que j'aime plus le chocolat que le photographier. Mais ça m'est arrivé d'être. Mais il n'y a pas, à part les petits...
les petits lapins,
en chocolat, je ne pense pas qu'il y en a d'autres.
D'accord, mais c'était intéressant d'en parler.
Par contre, si je peux juste... Parce que là, il y a un autre cliché sur les Alpes, par exemple, alors qu'on magnifie, etc. Ce qui est drôle, c'est de retrouver les Alpes utilisées dans mille et une façons, que ce soit comme décor, toujours vers la Bahnhofstrasse, avec une espèce de publicité, avec les cas confondus. Donc on utilise cette espèce de symbolique, cette rhétorique de l'image, ou alors avec d'immenses dans une espèce de foire, d'immenses panneaux muraux avec ces Alpes, cette beauté des Alpes.
Hein. Ouais, la montagne.
La montagne qui est peut-être l'un des symboles, mais il faut bien qu'on utilise des symboles, parce qu'on n'a pas grand-chose, hein, en Suisse, finalement, fondamentalement. Au niveau, on a peu de richesses dans notre sous-sol, on a des montagnes qui, avec le réchauffement climatique, risque d'être plus utilisé en été qu'en hiver.
Mais qui sont quand même magnifiques, il faut bien le dire.
Elles sont magnifiques, elles sont superbes.
Vous allez les faire bouger.
Non, mais elles sont superbes, j'ai rien à dire. Mais c'est quand même un des grands clichés, la montagne.
Tout à fait. Marco Schneider, vous êtes historien à l'Université de Genève. Sur cette question des clichés, en quoi c'est important pour l'historien de se positionner par rapport aux clichés? Est-ce qu'on les balaye tout de suite en disant non, c'est une fausse information et on la balaye tout de suite? Ou bien est-ce qu'on s'y penche quand même?
On s'y penche certainement. Après, qu'est-ce qu'un cliché représente? Pourquoi il est là? Quand est-ce qu'il a été inventé? Est-ce qu'il y a une histoire derrière, ou bien est-ce qu'il a été inventé de toutes pièces? On s'y intéresse beaucoup, mais peut-être pour des raisons différentes, et avec l'idée justement de creuser derrière la présence de certains clichés. Parce que souvent, il y a des grands historiens qui se sont penchés aussi sur cette question de l'invention de la tradition. C'est-à-dire que c'est surtout au 19e siècle, quand on a dû construire un état national, qu'on a commencé aussi à organiser ces jeux alpestres, en idéalisant plus une certaine manière de vivre d'autrefois. Donc c'est cliché en histoire, mais c'est aussi beaucoup d'artificiel là derrière.
Oui.
Forcément.
Alors par rapport, mettons par rapport à la montagne et à l'horlogerie, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus par rapport à la Suisse ?
Quand on parle de la Suisse, c'est vrai que de la montagne, il faut parler, c'est vrai que...
Parce que c'est un élément géographique, objectif.
Objectif, pas dire tout à fait. C'est clair que la montagne a été longtemps un endroit qui faisait peur. Et s'il fallait y aller, c'était pour la traverser le plus rapidement possible, sans,
sans
danger si possible.
Oui.
C'est après qu'on a commencé à découvrir aussi... la montagne comme un lieu sublime, comme un lieu qu'on veut visiter avec le grand tour de ces aristocrates et nobles européens du XVIIIe siècle qui voulaient voir les montagnes. Mais là, il y avait une très grande différence entre la perception des habitants de la montagne et des citadins.
Les citadins qui allaient dans la montagne, bien sûr.
Pour les autres, Didier Rueff a publié il y a quelques années un très beau livre sur les paysans de montagne. Et là, on voit qu'est-ce que c'est vivre la montagne vraiment. Pas juste la visiter pour quelques jours. Mais c'est vrai que la montagne fait partie, je dirais, de l'identité suisse plus que pour d'autres pays. Je pense la France avec le Mont Blanc, avec les Alpes françaises qui sont magnifiques, mais il y a la mer, il y a la Méditerranée, il y a l'océan. Donc pour la Suisse, c'est vrai que la montagne est présente.
C'est une donnée qui est quasi constante.
On la voit toujours,
partout.
Même quand on est sur
Exactement. Sur
le plateau.
Quand on est en ville, ouais. On peut voir.
Juste une petite remarque, c'est une anecdote qui m'a fait réfléchir. Le seul canton, la seule ville d'où on ne voit pas les Alpes, c'est Bâle. J'avais jamais réfléchi au fait qu'il y a un endroit en Suisse d'où on ne voit pas les Alpes.
Ah oui?
Effectivement, on descend, on passe le Jura. C'est un peu comme pour le Tessin, on traverse une chaîne de montagnes.
D'accord.
Mais là, c'est vrai qu'il y a un peu cette... C'est peut-être aussi pour ça que Bâle a quand même... À mon sens, parmi les Suisses, les villes suisses allemandes en tout cas, c'est une ville un peu différente, plus ouverte à l'Europe peut-être.
Oui, qu'est-ce que vous en pensez de ça? On ne voit pas les Alpes de Bâle.
Non, mais c'est vrai, c'est intéressant parce que l'autre jour, j'étais à Milan, donc en passant par Chiasso. Chiasso, c'est une espèce de fond de vallée et tout d'un coup s'ouvre la grande plaine italienne où là, tout d'un coup, il n'y a plus de montagne en fait.
L'horizon est différent.
L'horizon est ouvert. Moi, je me souviens un jour où ma mère était venue au Tessin l'une des premières fois et j'habitais à Massagne. Et la vue était très belle. Et elle m'a dit, c'est très beau, mais les montagnes sont quand même très, très, très proches. Hein. Je veux dire que... Et c'est vrai que sur mon balcon, il y avait juste un endroit où cette fameuse ouverture vers Chiasso où les yeux fuient. Donc, à Bâle, il y a la... À Bâle, finalement, les montagnes sont derrière vous. Autrement, on les voit toujours un peu. Elles sont toujours là, un peu, cette puissance tutélaire.
Évidemment,
mais c'est vrai que pour revenir à ce discours, là où les citadins ont pris du plaisir en montagne, les gens, il ne faut pas oublier qu'ils les ont fui pendant des siècles parce que finalement ils mouraient sur les montagnes, il n'y avait pas grand-chose.
Évidemment, bien sûr. Et puis derrière toutes ces montagnes, il y a évidemment beaucoup de gens. Et on le voit bien dans votre livre, évidemment, ils sont complètement différents les uns les autres en fonction des cantons. On va peut-être y revenir dans quelques instants. Je vous propose de faire encore une petite pause. Et puis on se retrouve pour continuer à évoquer la Suisse ce matin à l'occasion de l'apparition de ce livre que je vous recommande, Homo Helveticus. Restez bien à l'écoute de Radio Lac. Il est 10h47.
10h midi sur Radio Lac, mieux vivre. 10h midi sur Radio Lac,
mieux vivre avec Maud Carlus.
Et si vous nous écoutez, vous savez que l'on parle de la Suisse, de l'identité suisse, ce matin dans Mieux Vivre, en compagnie de Didier Rueff, qui est photographe et qui publie un livre photo, un album photo, en fait, quelque part. C'est un gros livre, formidable, en noir et blanc, intégralement, avec 168 images. Il a sillonné la Suisse de A à Z, en passant par tous les cantons, pour essayer de nous dégoter ces magnifiques images. Pendant 30 années. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, Didier Rueff, vous êtes genevois, vous êtes né à Genève, mais vous n'aviez pas conscience, vraiment, vous étiez suisse, vous n'aviez pas conscience, quand vous étiez jeune, genevois, d'être suisse, puis vous êtes parti à New York et vous êtes revenu, et là, petit à petit, vous avez pris conscience de votre suissitude, ce que vous essayez de définir dans votre livre. Alors, je voudrais vous demander, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez déjà conscience d'être suisse, mais est-ce que vous avez conscience d'être genevois? Alors, et qu'est-ce qu'on peut voir de Genève dans ce livre ?
Alors Genevois, oui, et je le revendique souvent, ce qui est un paradoxe, parce que quand j'ai voulu postuler pour des bourses de photographie à Genève, on m'a gentiment fait comprendre que Genevois, dans mon passeport, oui, dans ma carte d'identité, mais ne payant pas mes impôts, à Genève, je n'ai pas droit à postuler à Genève. Donc,
Vous vivez à Lugano.
Parce que j'ai vécu au Tessin. Donc voilà, je suis un Tessinois, même si au Tessin, peut-être qu'on ne me reconnaît pas ce statut, parce que là, je pense que pour être Tessinois, il faut avoir 500 ans de présence et parler le dialecte, mais bon, ça c'est une parenthèse. Genève est très présent dans les livres, parce que finalement Genève c'est la ville de mon enfance, la ville de mes amis, j'y retourne souvent, ma mère vit à Genève, et j'ai toujours photographié Genève. Sur l'arc de ces 30 années, j'ai toujours à différents moments donné photographié, et s'il y a 2-3 images qui me viennent en tête, ce serait ce travail que j'avais fait sur le travail de la voirie, qui était l'un des reportages que j'ai fait pour mon livre sur les déchets, Recycle. Donc l'un des premiers volets, c'était ce travail de collecte des déchets à Genève. Il y a une des dernières images, c'est paradoxalement à l'escalade, avec ces tireurs, avec ces vieux fusils, dont je ne sais même plus comment ils s'appellent. Et voilà, c'est toute une série de clins d'œil. Donc Genève est présente, bien sûr.
Oui. Est-ce que Genève a beaucoup changé en 30 ans, ou est-ce que vous avez retrouvé quand même la substance de la Genève de votre enfance?
Ce qui est assez surprenant pour moi, c'est que finalement à Genève, je me sens chez moi, mais chaque fois que j'y reviens, il y a quelque chose qui a changé, il y a des détails, il y a des... enfin, c'est pas seulement les bâtiments, il y a des comportements. Il faut que je me réhabitue à Genève.
Donnez-nous un exemple de comportement, par exemple.
À Genève, quand j'arrive, la dernière fois que je suis arrivé à Genève, j'ai eu droit à une altercation routière parce que j'avais malencontreusement coupé la route à quelqu'un, je m'étais trompé, voilà. Donc j'ai eu droit à... Je me suis dit, ah, tiens, c'est vrai. Me revoilà à Genève, ce côté rebelle. Mais autrement, je me sens chez moi dans les rues, mais les choses ont changé, les magasins ont changé, les gens... Ça a toujours été multiculturel, Genève, ce qui est assez impressionnant. C'est constant, parce que moi j'ai grandi à Genève, j'ai jamais réalisé que le monde est à Genève. Quand je suis arrivé à New York, c'est pas que ça m'ait surpris, New York. Alors bien sûr, la taille est colossale, mais le côté multiculturel, finalement, c'est Genève. Moi je me souviens un jour d'être revenu d'un reportage en Afrique, d'être allé faire mes courses à l'époque à la Placette, c'est pas encore la Placette, et dans ce supermarché où j'étais avec ma femme, fatigué avec le décalage horaire, je me tenais un peu au caddie, et je regardais les gens autour de moi, je me suis dit, mais il y a le monde entier, tout le monde est là à Genève. Donc cette multiculturalité, elle est toujours là,
effectivement. Marco Schneider, historien à l'université de Genève, justement, vous avez sûrement des choses à dire sur cette question d'identité genevoise.
Question intéressante, mais un peu complexe, effectivement. Je me sens pas vraiment... Comment dire, en mesure de répondre.
Vous êtes genevois d'adoption, un peu.
Oui,
dire,
parce que j'ai le parcours inverse par rapport à Didier Rieff, qui est né à Genève, qui a vécu à Genève son enfance, et puis il s'est déplacé, à la fin maintenant, au Tessin. Moi, j'ai grandi au Tessin. Ouais. Et je suis arrivé à Genève étudier il y a une vingtaine d'années.
Est-ce que c'est vrai ce qu'il a dit tout à l'heure, cette espèce de ce côté un peu rebelle qui peut voilà parfois exister à Genève? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous avez ressenti ça quand vous êtes venu du Tessin, par exemple?
Du rebelle, je ne saurais pas dire. Après, c'est vrai que dans certaines situations, par exemple, je ne sais pas, quand on appelle, je ne sais pas, dans un bureau de l'administration, on demande quelque chose. J'ai remarqué une chose, c'est pas que les gens sont pas polis, au contraire, mais il y a comme une sorte de réaction de défense au début, comme si on voulait les attaquer pour quelque chose, et peut-être qu'on n'avait rien de... Ça, j'avais remarqué peut-être un peu plus ici que côté Saint, mais bon, après, c'est aussi des moments de la vie différents où on se trouve aussi dans des situations différentes. Mais c'est vrai qu'une chose que je peux dire, c'est que j'ai commencé à découvrir cette ville plus récemment avec mes enfants. Donc en se promenant en ville avec les enfants en bas âge, on découvre et on voit la ville d'une façon différente.
On voit les choses différentes.
Et ça, c'est intéressant par rapport à la vie en tant qu'étudiant. Oui. La multiculturalité, c'est vrai que c'est impressionnant de voir... C'est une mini... disons, une métropole en miniature, Genève. Ça, certainement. Il y a vraiment tout, évidemment, dans une taille... dans une ville de taille réduite, disons, pas pour la Suisse, mais à l'échelle générale.
Tout à fait. Vraiment, mes toutes dernières questions, parce qu'on manque de temps, je voudrais vous demander, Didier Rueff, et vous aussi, Marco Schneider, vous allez pouvoir répondre, mais très rapidement, quel Homo Helveticus êtes-vous ? C'est dur comme question, hein ?
Ah, c'est très dur, hein ? C'est compliqué. Je suis un Homo Helveticus en devenir.
Une jolie pirouette pour s'en sortir.
Un peu. Non, mais comme souvent on me demande, alors, quelle photo retenez-vous ? Ben, ouais. J'ai l'habitude de dire, ben, la prochaine. Parce que finalement, et la beauté de faire un livre, c'est que ça permet de clore un chapitre. Pas pour autant que je ne vais plus photographier la Suisse, mais ça permet de lui donner un sens et de le mettre en forme.
Tout à fait. Et vous, Marco Schneider, quel Homo Helveticus êtes-vous ?
Moi, je dirais que peut-être un trait caractéristique de mon appartenance suisse, c'est peut-être cette culture politique, entre guillemets, dans le sens, ce sens du bien commun, peut-être, qu'on a encore un peu, cette volonté de garder des autonomies et des spécificités, de rester ensemble, mais de ne pas uniformiser, de ne pas devenir tous
les mêmes.
Oui. Ça, je pense que c'est un trait intéressant quand je discute avec mes amis italiens ou français qui peut-être des fois ont de la peine à comprendre la Suisse. C'est vrai que je leur explique que c'est possible d'appartenir à un pays où justement on a plusieurs cultures et plusieurs langues. Ça, je pense que c'est un aspect que je trouve très intéressant.
Très bien, merci pour cette réponse. Merci beaucoup à tous les deux, Marco merci. Schneider, je rappelle que vous êtes historien, vous travaillez à l'Université de Genève et vous êtes historien moderniste. Merci d'avoir été avec nous. Évidemment, merci, un grand merci Didier Rueff pour ce livre qui paraît aujourd'hui, Homo Helveticus, ce magnifique livre de photos. Rappelez-nous les éditions
Tilschap.
Voilà, Tilschap. Édition, voilà. Si vous voulez voir ce livre. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une belle journée.
Merci.